Chers amis de Radio Courtoisie, bonjour. Olivier Figueras au micro une nouvelle fois et avec grand plaisir. J'ai à mes côtés Jeanne Smits, comme
d'habitude.
Souvent.
Et oui, plus souvent que vous ne l'imaginez. Chers auditeurs, bonjour, bon dimanche, nous sommes ravis d'être avec vous.
Et nous recevons aujourd'hui Paulin Calvet. Bonjour Paulin.
Bonjour Olivier, bonjour Jeanne.
Alors, ça n'est pas la première fois que vous venez au micro de Radio Courtoisie, mais vous y venez aujourd'hui pour un sujet différent de ceux que nous avons eu l'occasion de discuter les fois précédentes. Vous y venez pour parler d'un livre, un livre qui est consacré à votre famille d'une certaine façon, et notamment à votre oncle Don Gérard Calvet, le fondateur du Barou, un livre qui est un livre de, où vous avez ramassé une partie de la correspondance que Don Gérard a eue avec ses deux frères, donc votre autre oncle et votre père, et avec aussi André Charlier qui fut leur maître et leur professeur. Alors, ce livre qui est intitulé « Le souvenir et l'âme de la fidélité », nous y reviendrons, vous l'avez concocté, j'allais dire, hein, au départ, à la fois un peu par hasard et aussi, dans un premier temps, dans un but plus familial et non pas de diffusion large. Et puis, les choses se sont faites ainsi, on est passé à une diffusion large. Quel a été le cheminement qui vous a conduit à ces différentes étapes?
Alors d'abord, je me réjouis de parler de ce livre avec vous, parce que ça me tient beaucoup à cœur. C'est l'histoire d'un homme extraordinaire que beaucoup d'entre vous connaissent, dont Gérard, qui est donc le frère de mon père. C'est pour ça que c'est très proche pour moi. Le livre a été s'est construit naturellement lorsque j'ai récupéré quelques jours après la mort de mon père, qui est donc le dernier des frères Calvet qui nous a quittés en 2021, j'ai retrouvé l'ensemble des archives. Ces archives étaient constituées de lettres de Don Gérard, de lettres de Jean et de quelques lettres d'Hubert. Alors évidemment, les lettres de Jean et d'Hubert, les deux autres frères, bah, elles sont arrivées, je dirais, dans la cellule de mon oncle Don Gérard. On en a très peu. Par contre, on a toutes celles que Don Gérard a envoyées à ses deux frères, et c'est avec ça que j'ai construit ce recueil, tout naturellement.
Juste une question, Paulin Calvet, ces lettres donc de Don Gérard, de votre père, de votre oncle, d'André Charlier, celles d'André Charlier étaient conservées chez vous, mais celles de celles familiales adressées à Don Gérard étaient conservées au Barou. Il en avait gardé un certain nombre, et vous avez pu les récupérer.
Non, celles qui ont été envoyées au Barou, on n'en a pas récupéré. Les seules que j'ai pu avoir sont celles que Don Gérard a renvoyées à ses frères.
Ah, ça s'est passé comme ça.
Voilà.
Oui.
Et donc c'est comme ça que j'ai pu retrouver des lettres de Jean et d'Hubert qui sont très anciennes, puisqu'elles datent des années 44, 45, 46, 47. Donc vraiment... au début de leur vie d'âge adulte. Donc celles-ci sont d'ailleurs passionnantes parce qu'il y a un élément historique très intéressant. Voilà, donc en fin de compte, j'ai simplement récupéré des cartons dont ma mère ne savait que faire et c'est en ouvrant tous ces cartons et toutes ces archives en vrac que je me suis rendu compte de la valeur extraordinaire de ces lettres. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire ce recueil, tout d'abord pour ma famille, c'est-à-dire que je l'ai adressé à mes cousins, à mes frères et mes sœurs, bien sûr, mes cousins et mes neveux et nièces. Voilà, tout d'abord à cette personne, ces personnes-là. C'est pour ça que j'ai entamé ce travail et j'ai décidé, avec mon épouse et mes enfants, de produire 200 exemplaires à titre totalement privé. Et ces 200 exemplaires ont été distribués dans notre cercle étroit familial, nos amis... tous les gens avec lesquels nous sommes proches, et évidemment aux communautés du Barou, de l'Annonciation, c'est-à-dire les Moniales, de Sainte-Marie de la Garde, évidemment. Voilà. Donc, en fin de compte, j'ai commencé comme ça, et c'est petit à petit que, à la lecture de toutes ces lettres, les, les, dont Louis-Marie m'a suggéré de faire une édition donc qui serait donc aux éditions Sainte-Madeleine du Barreau. Voilà.
Donc une édition publique qui tient compte de l'intérêt que le public, au sens large, peut avoir pour une histoire familiale. Et pour, je n'ai pas eu le temps, hélas, de tout lire, mais enfin, de fait, ce sont des leçons de vie qui se déroulent là-dedans.
Alors, il y a dans ces lettres, évidemment, des éléments très intimes, très... qui sont liés à des personnes où là, il y a des choses qui n'avaient pas besoin d'être publiées. Donc, j'ai un peu, nettoyé ces lettres, mais tout en essayant de garder la structure générale de la lettre et l'ambiance de la lettre et l'humeur de la lettre. Donc, la lettre, de temps en temps, il y a des choses qui paraissent un petit peu... moins importantes que d'autres, mais je les ai gardées pour que la lettre se lise vraiment comme une lettre. Voilà. Mais j'ai sorti les petits éléments d'ordre purement familial, purement privé, qui évidemment ne regardent personne. Et voilà. Mais donc tout ça a été fait en respectant évidemment une certaine intimité familiale. Et c'est à partir de là que j'ai construit tout ça et que j'ai proposé ça aux communautés du Barreau.
Alors, pour qu'on soit précis, c'est une sélection de lettres.
Oui, il y en a beaucoup plus.
Il y en a beaucoup plus.
Il y en a plus, mais il a fallu quand même... d'abord, je ne voulais pas faire une Bible, je ne voulais pas faire un document trop lourd. On sait que déjà 170 lettres, c'est beaucoup. Hein, c'est quand même un document qui fait pratiquement plus de 400 pages. Parce que... Ce que j'ai voulu faire, c'est... en fin de compte, je me suis dit qu'à partir de ces lettres, c'était un complément idéal au très beau livre qui a été réalisé par Yves Chiron, donc la biographie de mon oncle, de Don Gérard. Et j'ai pensé que ces lettres venaient comme un complément naturel. Voilà. Et donc, j'en ai profité pour faire une biographie de chacun. Donc, j'ai fait une biographie d'André Charlier parce qu'il intervient. Il y a des lettres de lui qui sont passionnantes. Et évidemment la biographie des trois frères. Voilà, donc ces biographies étant faites, ensuite j'ai structuré ça dans le temps et puis j'ai mis quelques petites annexes, dont une qui me tient beaucoup à cœur, qui est un texte que mon oncle, dont Gérard a écrit quelques mois après la mort de sa mère, qui tient une place très très importante dans sa vie et surtout dans sa vocation. Et ce texte de 11 pages est magnifique, il est dans les annexes et il est d'une rare... D'abord, il est extrêmement bien écrit, il y a une dimension poétique, et puis il y a toute son âme qui ressort, il y a toute l'origine de sa vocation qui est dans ces 11 pages. Et je dirais même, rien que pour ces 11 pages, ce livre est important.
Alors, pour finir sur cette question en pratique, avant d'entrer pleinement dans le sujet... Il y a, donc on commence en 44, on finit en 2008 au décès de Don Gérard, donc il y a plus de 60 ans qui sont couverts, mais il y a des périodes plus creuses que d'autres. Est-ce que ça tient à cette sélection justement, ou est-ce qu'il y a des raisons qui font que pendant certaines périodes il n'y a pas eu de correspondance, ou que les lettres ont disparu? Quel est le...
Alors, il y a un petit mystère pour moi. En gros, il y a beaucoup de lettres de jeunesse, c'est-à-dire avant l'entrée au monastère de Don Gérard. Il y a beaucoup de lettres du temps du premier monastère dans lequel il se trouve, c'est-à-dire Madiran. Il entre à Madiran, ensuite il entre à Tournai, puisque Tournai est construit parce que Madiran est un petit monastère absolument pas adapté à la vie bénédictine de l'époque, et il fallait absolument en construire. Donc ils ont construit Tournai, donc la communauté se déplace à Tournai. Donc là il y a beaucoup de lettres, il y a beaucoup de lettres au Brésil, il y a beaucoup de lettres, voilà. Et il y a pas mal de lettres au début de Bédouin, c'est-à-dire au moment où Don Gérard commence son aventure en sortant de Tournai, c'est-à-dire 68, 69, 70. Après, il y a une période assez longue jusqu'au Barreau où il y a très peu de lettres, parce que je pense que c'est pas des lettres perdues. Je pense que Don Gérard n'a plus le temps de prendre sa plume et d'écrire des lettres de 2-3 pages à ses frères. Parce qu'il
donc
est...
Donc la période bédouin.
Bédouin, exactement. Là, dans cette période-là, il va être extrêmement occupé parce que très vite, d'abord, il a beaucoup de charges parce qu'en fait, il est le seul à pouvoir enseigner à ses frères, pratiquement à ses novices.
Oui, les seuls moines, donc, les autres sont
des novices. Ils arrivent, ils ont tous 20, 25 ans et donc tout ça a besoin d'une formation et c'est lui qui fait tout. Donc, je pense qu'il y a un, il y a ça, et il y a deux, le fait que très vite, il va se mettre à pas mal voyager pour chercher des dons, pour faire parler de son œuvre, du début de son petit prieuré, et pour pouvoir commencer à demander des dons pour pouvoir construire. Voilà, parce que très vite, les moines arrivent, les vocations se multiplient, et il va très vite comprendre qu'il ne pourra pas rester dans le petit prieuré de Bédouin très longtemps. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de lettres. Alors, mes parents, mon oncle, toute la famille recevaient des petites cartes, comme beaucoup d'entre vous peut-être ont reçu tout au long de votre vie, des petites missives, des petits messages très courts, mais des vraies lettres telles qu'ils les faisaient dans les années 60-70, plutôt 50-60, là, il n'y en a pratiquement plus. Voilà.
Oui, donc on comprend que au moment où le moine devient bâtisseur, si je puis dire, oui. Et il a la plume, il la laisse un peu de côté pour s'occuper du marteau, de la charrue, de ce qu'il faut pour qu'une nouvelle communauté prenne son essor.
Exactement.
Alors, la première chose moi qui m'a frappé...
Je m'interromps aussi, il y a une chose importante que j'oublie, c'est que Don Gérard écrit beaucoup, non pas... il écrit beaucoup à beaucoup de personnes qui ont besoin de son soutien moral et spirituel, mais aussi il écrit parce que il y a par exemple l'Itinéraire qui lui demande des articles, il y a beaucoup de revues qui lui demandent d'intervenir, et puis il fait des conférences. Donc tout ça demande un travail de préparation, et je pense qu'il est très pris par tout ça. Chose qui n'était pas du tout le cas, ni au Brésil, ni à Tournai.
Oui, bien sûr.
Où il était,
un parmi d'autres.
Oui, exactement.
Alors, je disais, la première chose, moi, qui m'a frappé en lisant cette correspondance, c'est pas la chose peut-être la plus importante, mais c'est la première qui m'a frappé, c'est qu'on est face à un moine, et à ses frères et son maître André Charlier, mais on est face à un moine qui a une vision très immédiate de sa famille. C'est... Il vit aussi, même s'il y a la distance, mais il vit aussi avec sa famille. Ce qui va contre l'idée qu'on a parfois des moines qui sont enfermés complètement dans leur monastère, au point que leur esprit même ne le quitte pas, n'en sort pas. Lui, il a une connaissance de sa famille et il sait ce qu'un tel fait, ce qu'un tel pense et ce dont un tel a besoin. Et c'est très marquant, un peu comme quand on lit des biographies de moines beaucoup plus anciens, d'autres époques, qui ont été aussi qui écrivaient aussi beaucoup, et qui connaissaient des tas de sujets extérieurs à leur couvent, alors que souvent on se dit, le moine, on arrive, il connaît son couvent, il connaît son monastère, et puis c'est tout. Lui, il a une vraie vie familiale, d'une certaine façon, même si elle est intellectuelle.
Oui. Alors, je crois qu'il y a deux... Pour répondre à ça, il y a peut-être deux raisons fondamentales. La première, c'est que je crois que Don Gérard aime écrire. Parce qu'il a une facilité.
Et facilité d'écriture. Oui, ça se sent dans
on
tout.
Sent que c'est presque une joie pour lui de coucher sur le papier ce qu'il apprend déjà, ce qu'il reçoit de sa vie bénédictine, sa vocation, de sa foi qui grandit, qui se nourrit, de la liturgie, de sa vie de moine. Donc là, je crois qu'il y a vraiment un besoin de transmettre. Et d'ailleurs, on le retrouve jusqu'à la fin de sa vie, ce besoin de transmettre. Il n'a jamais arrêté de vouloir transmettre. Comme on dit, il n'a jamais voulu créer de nouveautés. Il a simplement voulu transmettre et restaurer. C'est ça, en fin de compte, l'œuvre de Don Gérard. C'est une œuvre de restauration, c'est pas autre chose. Milieu de temps difficile. Et donc, je pense qu'il y a ça, il y a ce goût de l'écriture, ce goût de la lettre. D'ailleurs, je l'ai dit dans le début de ce livre, c'est qu'il y a, il y a, c'est ça qui est d'ailleurs passionnant pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est de voir comment des jeunes de 20 ans ont ce goût de s'écrire, et de s'écrire dans un beau français, dans des phrases construites, avec une pensée limpide, une sens de l'analyse. Et, bon,
et une recherche et une vraie recherche du mot juste, de l'image.
Du beau terme, voilà, oui. De la phrase bien construite. Mmh. Tout ça, c'est quand même assez extraordinaire. Donc là, pour moi, ça, c'est un vrai sujet d'étonnement, presque, pour notre génération. Et puis, je pense que dans tout ça, il ne faut pas oublier que Don Gérard a eu des relations très difficiles avec son père, des relations presque un peu conflictuelles avec lui. C'était deux fortes personnalités qui se sont un peu heurtées. Et donc,
mais pas du fait de sa vocation.
Non, c'est du fait que mon oncle avait une personnalité très forte.
Grand-père.
Don Gérard.
Ah oui.
Don Gérard avait une personnalité très forte, un peu rebelle, complètement, presque un peu ingérable dans sa jeunesse. Et en face, un père qui ne voulait pas s'en laisser compter. Donc, ça clashait un petit peu. Et là-dessus, on a beaucoup d'exemples qui nous ont été transmis par mes parents, où véritablement, il y avait vraiment un problème. Et donc, Don Gérard a trouvé, à travers sa relation très forte qu'il a eue avec sa mère et ses deux frères, une espèce de ciment qui s'est construit autour d'eux, et puis le fait aussi que leur père meurt jeune, hein, il meurt à l'âge de 50 ans, d'une maladie assez brutale, et donc évidemment, y a une famille très resserrée autour de la mère et des deux frères.
Mais à ce moment-là, Don Gérard est déjà...
Il est pratiquement en train d'entrer au monastère au moment où son père meurt.
D'accord.
C'est quelque chose qui m'a frappé, Paulin Calvet, dans la vie de Don Gérard. Il semble avoir eu beaucoup de mal à avouer sa vocation à sa mère.
Alors oui, parce que sa mère est très sensible. Je crois que ma grand-mère n'a peut-être pas eu une vie extrêmement heureuse. Avec son mari. Bon, je pense que c'est sûrement un mariage d'amour, mais ensuite, du fait du caractère très difficile de mon grand-père, qui avait un problème de foi et qui lui posait des problèmes
de foi.
Oui, là, Paulin joint le geste à la parole.
Oui, mais c'est vrai que non, mais il avait des problèmes hépatiques. Enfin, je ne sais pas très bien, je ne suis pas médecin, mais juste pour dire que mon grand-père avait un vrai problème, il rentrait dans des colères importantes, etc. Bon. Donc ma grand-mère a supporté tout ça, elle a porté tout son dévolu, toute son affection, toute sa tendresse, toute sa foi aussi auprès de ses trois fils, et ça s'est cimenté entre la mère et les trois fils. Voilà. Et là, il y a véritablement eu cette espèce de ciment, et mon oncle, Don Gérard... aussi par tendresse pour sa mère, a gardé ce lien très étroit avec elle et avec ses frères pour justement garder ce lien et pour faire en sorte que cette coupure monastique, puisqu'il y a une vraie clôture monastique, soit la plus douce possible pour sa mère. Voilà. Et je pense qu'on le ressent bien, et d'ailleurs on le ressent même beaucoup dans le ton qui est donné dans les lettres du Brésil, où quand il écrit à sa mère, on sent vraiment qu'il est là pour la consoler, de la distance. Voilà. Il sent bien que pour sa mère, c'est une souffrance, ce départ. D'ailleurs, le père abbé de Madiran offrira un petit cadeau à ma grand-mère. Il lui dira, écoutez, voilà, pour que la coupure soit moins rude, je lui donnerai le nom de Gérard, qui est donc son nom dans la vie civile. Voilà.
Oui, ce qui
n'est pas le cas dans l'ordre bénédictin en général.
Ce que Don Gérard a reproduit pour mon propre frère au Barou, puisque quand mon frère Raphaël est entré au Barou, mon père n'avait pas recouvré la foi, et pour que la rupture soit moins rude, Don Gérard lui a conservé aussi son prénom de baptême. Voilà, donc c'est une chose qu'il avait reçue et qu'il transmettait aussi. Voilà.
Mais là, nous sommes en train de parler de ce qui semble être une correspondance privée, mais justement sur ce point de la réception de la vocation d'un enfant, je pense que c'est un livre qui est plein de leçons et plein de consolations aussi.
Oui,
quand quelqu'un a du mal avec l'idée que son fils, sa fille prennent la tonsure, le voile.
Alors, c'est vraiment... mon grand-père, à la fin de sa vie, n'est pas en opposition avec la vocation bénédictine de Don Gérard. Simplement, il ne la comprend pas très bien. Il ne sait pas très bien de quoi il s'agit. C'est un homme qui allait à la messe tous les dimanches. C'était un homme qui vivait sa foi catholique de façon très, très normale. Mais c'est une vocation qui tombe un peu comme ça. Il ne la comprend pas très bien au départ. C'est en fin de compte leur mère qui a eu cette intuition extraordinaire d'avoir entendu parler d'André Charlier, qui s'installe à Maslac au moment des hostilités en 40. Et elle se dit, pour sauver mes trois fils, c'est là que je vais les envoyer. C'est à partir de là que tout se prépare. Voilà. Mais ils sont pensionnaires, donc ils voient très peu leur père, qui a quand même des passions dans la vie qui sont un peu différentes, puisque c'est un passionné de chasse. Il gère très bien ses affaires. Et la maison Calvé est très bien gérée par mon grand-père. C'était un homme qui était très astucieux en affaires et il a bien géré la société. Mais il avait des passions dévorantes, c'est-à-dire la chasse et le jeu. Mmh. Voilà, donc c'est quand même compliqué.
Et il est peut-être possible aussi que, justement, la maison Calvé, c'était une institution.
Oui.
Il est peut-être possible qu'il ait été contrarié qu'un de ses fils veuille autre chose que la maison Calvé.
Oui, il y a ça aussi, absolument. Parce qu'il y a aussi un élément très important, c'est qu'il y a eu beaucoup de membres de la famille qui sont morts pendant la guerre de 14-18, et en particulier certains d'entre eux, dont en particulier on peut parler de Jean Calvé, qui était donc l'oncle de Don Gérard, et qui était véritablement un des éléments les plus brillants de la famille, et qui est décédé en pleine guerre de 14. Il y en a eu d'autres, il y en a une autre qui s'appelait Gérard, justement, un autre oncle de Don Gérard, c'est des noms qui reviennent dans la famille. Et ces hommes sont partis, et évidemment, pour une société commerciale, ce sont des éléments importants qui manquent au moment du remplacement des générations.
Et vous disiez que le fait d'avoir envoyé les trois fils à Maslac, je crois qu'il faut expliquer ce qu'était Maslac, et la présence d'André Charlier. On croit comprendre qu'André Charlier a joué un rôle fondamental dans la vocation de Gérard, enfin un rôle facilitateur, pour dire les choses ainsi.
C'est une véritable rencontre. C'est une rencontre qui est liée à la Providence. Alors, les frères Charlier, beaucoup d'auditeurs les connaissent. Ce sont deux convertis, issus ayant eu un père franc-maçon notoire, enfin vraiment actif, pas un franc-maçon endormi, mais très actifs, donc ils viennent de loin, et les deux frères convertis, André plutôt musicien et Henri artiste peintre, sculpteur, peintre, dessinateur, sont deux personnages absolument exceptionnels, hein, chacun dans son genre, dans son génie, et André Charlier va se retrouver à travailler à l'École des Roches en Normandie. Et là, à cause de la guerre, l'école est transférée très rapidement dans un petit village qui s'appelle Maslac, qui est à côté de Pau, à côté de Pau, Orthez, voilà, dans cette région-là, donc en zone libre. Et dans cette nouvelle aventure, André Charlier est nommé très rapidement directeur de l'école. Donc là, il prend ses marques et il n'est plus simplement professeur de français, il est directeur de l'école. Et là, il va imprimer à l'école sa marque.
Une école qui reçoit comme élève des enfants des grandes de ce monde, je crois.
Oui, alors
au moins pour partie.
L'école des Roches est connu pour ça. C'est une école pour enfants en général de familles très aisées, bourgeoises, et même des enfants de familles princières, etc. Il y aura même le fils de Bao Dong du Vietnam qui viendra quelques mois à l'école. Enfin, il y a comme ça des enfants qui viennent un peu de la terre entière et qui sont élevés dans un style un peu à l'anglaise. C'est-à-dire, le style de l'École des Roches, c'était on travaillait le matin et l'après-midi était réservé à tout ce qui était art, sport, etc. Voilà, donc tout ça, c'est un système un peu britannique, donc un collège, un internat uniquement pour garçons. Et André Charlier va lui donner une marque très spéciale, parce que lui, il va apporter tout, c'est-à-dire sa spiritualité, sa culture, et surtout ce sens de la formation des esprits, de la sensibilité, du caractère. Et là, pour comprendre André Charlier, bah, il faut lire les lettres au capitaine.
Oui,
et il faut
que
lire
Don Gérard avait réédité
absolument. Et puis, il faut lire ce formidable livre, cette biographie d'André Charlier qui est formidable, qui, je crois, a été réalisée par son petit-fils, Don Henri, qui est moine au Barreau. Voilà.
Et alors, on voit, alors c'est pas le plus important du livre, mais on voit l'influence d'André Charlier sur Don Gérard, comme sur d'ailleurs ses frères. Je me suis posé une question en parcourant ces diverses lettres. Je me demandais s'il y avait une sorte d'analogie avec ce qui est arrivé avec Jean Madiran, parce que Jean Madiran, au départ, a été pour Don Gérard un maître.
Un professeur.
Ils ont 7 ans d'écart. Hein.
C'est court, mais bon, le fait est que Gérard Calvet était élève et Jean Arfel, ou Jean Madiran, était professeur. Bon. Et puis, pour les avoir un peu fréquentés tous les deux et les avoir vus ensemble, la chose s'était un peu stabilisée, voire inversée, au moins sur certains plans. C'est Don Gérard qui était un peu parfois le maître spirituel ou conseiller sur certains points ou qui se permettait, si on peut dire, de faire quelques remarques à Madiran sur telle ou telle chose. Enfin, ça arrivait. Je me demandais si avec André Charlier, il y avait eu aussi un peu ce retour au moins sur le plan spirituel.
Alors André Charlier, c'est resté le prof, le patron de l'école. Et ça a toujours été considéré comme le professeur vis-à-vis de ses élèves. Et moi, j'entends encore mon père me parler d'André Charlier. C'était quand même quelqu'un qui n'était pas commode. C'était un homme assez grave, assez qui avait un côté un petit peu austère comme
et
ça.
Et très radical dans sa manière
radical.
De parler.
On le voit d'ailleurs dans les lettres d'André Charlier. Il y a quand même une espèce de voilà, on dit les choses clairement et on n'y revient pas. Et c'est vrai que autant il y a une relation de, je dirais, beaucoup plus proche et beaucoup plus simple entre Don Gérard et Madiran, entre Don Gérard et André Charlier, là il y a vraiment le maître et le disciple. Là c'est très marqué, c'est très marqué. À ce sujet, je voudrais rebondir sur votre question en vous lisant deux petites choses très rapides. La première, c'est Don Gérard qui parle d'André Charlier. Je pense que c'est la clé de voûte de sa relation entre André Charlier et lui. « Rien ne m'aura empêché d'être ce moine perdu de joie que je n'aurais jamais été sans ce goût d'absolu que Charlier nous a planté dans l'âme et dont il ne faudra pas priver les enfants. » Ça, c'est une lettre de Don Gérard à mon père Hubert. Mais voilà. Et mon père Hubert, ben, il a des enfants, et voilà ce qu'il envoie. Mais voilà, ça, c'est ce goût d'absolu, c'est vraiment ça qu'André Charlier leur a planté dans le cœur.
Et puis. Et que vous avez donc reçu.
Ben, qu'on a reçu. Qu'on a reçu parce que papa nous l'a transmis.
Oui.
Après, chacun en a fait ce qu'il a voulu.
Ah oui, mais ça, c'est autre chose. Voilà. Mais ça a été transmis.
Absolument, absolument. Et puis parce que papa, comme mon oncle Jean, on emmenait les enfants régulièrement, d'abord à Bédouin, ensuite au Barreau. On a fait comme ça, je ne sais pas combien de fois, la route de Bordeaux au Barreau, c'était bien normal. Et à propos de Madiran, je pense qu'on ne peut pas se passer de ce petit paragraphe qui est merveilleux, qui est tout à fait Madiran, et en même temps, cette espèce de relation qu'il y a entre Madiran et Charlier, qui est assez extraordinaire. Je vous la livre. Donc, Madiran parle de Malslack. Voilà ce qu'il dit. « Nous y vivions comme dans une fête continuelle de l'esprit et du cœur, au contact des plus grandes œuvres du génie humain, des héros et des saints. Nous y vivions avec l'âme de Peggy. C'est André Charlier qui m'a appris à lire Chesterton, Claudel et Pascal. C'est lui qui m'a appris ce qu'est le grégorien, qui m'a montré la France, qui m'a enseigné le silence. C'est lui qui m'a fait comprendre ce que je savais déjà. Et c'est lui qui m'a disposé à ce que je ne pouvais comprendre que plus tard. Il n'était pas au pouvoir d'André Charlier de nous ôter notre médiocrité, mais il nous l'a rendue insupportable. Il a fait pour nous ce qu'il pouvait, le reste est notre affaire. Bon, ce petit texte, pour moi, résume tout à fait tout ce que André Charlier a légué à ses élèves et aussi à ses professeurs, comme Jean Madiran. Donc Jean Madiran est d'une certaine façon un fils d'André Charlier, il a énormément reçu.
Et quand, à quelle époque Madiran écrit-il ces lignes? Vous avez une
je
idée à peu près?
Je ne pourrais pas vous le dire. Je l'ai retrouvé dans Madiran. Exactement à quel moment, je ne sais pas.
Parce que pour connaître, pardon, Jeanne, pour avoir un peu connu Madiran, l'entendre parler de sa médiocrité et de ce qu'il a reçu.
C'est pour ça que ce texte est important.
Je ne suis pas d'accord, en fait. Parce que j'ai souvenir, je demande. J'ai eu aussi la chance de parler beaucoup avec Jean Madiran et je lui avais demandé un jour comment il écrivait. Il disait : mais je n'ai pas l'impression d'écrire moi-même, j'ai l'impression d'écrire ce que je reçois. Et ça me paraissait très fort chez lui. Et par ailleurs, je me faisais aussi la réflexion que de cet homme, André Charlier, et puis d'Henri Charlier, son frère, le sculpteur, sont partis beaucoup de choses. Sont partis itinéraires, présents, le pèlerinage de Chartres, le centre Charlier. Il y a eu une fécondité
incroyable.
Absolument incroyable dans ce que nous avons aujourd'hui. Ce qui nous a été transmis et ce qui nous a été conservé, finalement, je pense que cette équipe-là, pour employer un terme familier, a été fondateur, fondamentale. Donc, une providence dans la rencontre de ces hommes-là à Maslac.
Je disais cela, Jeanne, je parlais plutôt de la façon dont Madiran s'exprimait en public.
Oui, c'est très, très différent.
C'était quand même assez différent de ce qu'il pouvait dire parfois en privé.
Vous écoutez Lumière de l'Espérance, il faut faire ce rappel, c'est l'émission du dimanche de Radio Courtoisie, dirigée aujourd'hui par Olivier Figueras, et je le seconde, Jeanne Smith, qui suis, pour que vous sachiez, hein, je suis son épouse dans le civil. Nous recevons avec une grande joie Paulin Calvet, le neveu de Don Gérard, qui a publié aux éditions, qui a contribué plus exactement en recueillant la correspondance de son oncle Don Gérard avec ses frères et puis des lettres d'André Charlier. Tout cela, il a édité, oui, il a préparé, édité, expurgé là où il le fallait pour les détails les plus intimes, familiaux, mais il a publié cette correspondance familiale qui est passionnante pour chacun, avec toutes les leçons de vie qu'elle contient et qui a été éditée par le Barou, donc avec l'accord et la bénédiction de Don Louis-Marie aux éditions Sainte-Madeleine.
Je ne savais pas que Courtoisie était un sacerdoce, puisque vous dites que dans le civil, nous sommes...
Ah, c'est peut-être une armée, à savoir.
Bon, puisqu'il y a eu coupure, nous allons peut-être en profiter pour écouter le bobino obligatoire et une toute petite pause qui suivra. Et ensuite, nous reprenons avec Paulin.
Nos émissions. Vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Le moine est le témoin d'une vérité qui ne change pas. C'est un pèlerin de l'absolu. De la vérité absolue. Notre Père Saint-Benoît dit que le moine est un chercheur de Dieu. Mais voyez-vous, cette recherche de Dieu se réalise non pas en extension ou en élargissement, mais en profondeur. par l'obéissance et par la prière. Alors, à quoi bon bouger? L'immobilité du moine prouve qu'il a trouvé ce qu'il cherche. Ce n'est pas une immobilité d'inertie, c'est une immobilité d'éblouissement et de plénitude. Je crois que c'est Pascal qui a dit un jour que on ne peut croire que les témoins qui se font égorger. Eh bien, on pourrait ajouter, le monde, aujourd'hui, a besoin de témoins éblouis, de témoins de la lumière qui se laissent éblouir par la lumière. Vous savez que dans une rue, c'est une farce qu'on fait quelquefois, lorsque quelqu'un se met à regarder avec insistance vers le ciel, sur un point du ciel, les gens s'attroupent et regardent aussi. Et ça peut faire un embouteillage. Eh bien, je crois que c'est ce qu'il pourrait faire aujourd'hui. Peut-être que la raison d'être des moines dans nos sociétés, c'est de regarder avec insistance vers le ciel.
Voilà, alors vous pardonnerez les quelques craquements dans cet enregistrement qui a aujourd'hui 45 ans. En fait, c'est un enregistrement que André Figueras, mon père, avait fait avec Don Gérard en mai 81 à Bédouin, quelques mois avant le départ pour la Noël 81 au Barreau. Voilà, c'est. Il me semblait que mettre la voix à côté de la plume, c'était un ensemble qui pouvait se tenir.
C'est très émouvant.
Alors, Paulin, j'allais dire revenons à Don Gérard. Non, continuons avec Don Gérard. Il y a une autre chose qui m'a beaucoup marqué dans cet échange, cette correspondance. C'est la spiritualité que manifeste Don Gérard, mais notamment avec ses frères, parfois un peu, pas comme un frère, mais comme un père spirituel, et ce, très tôt, enfin, j'allais dire presque même avant que d'être prêtre ou que d'être moine. Il a tout de suite une vision assez précise. Alors, je n'ai pas suffisamment connu votre oncle et votre père pour faire le parallèle exactement, vous allez pouvoir nous dire ce qu'il en est.
Non, mais alors c'est très amusant parce que quand nous avons commencé à sélectionner les lettres, il a fallu que nous les entrions dans un ordinateur. Et là, j'avais évidemment besoin de la compétence de mes enfants. Cette nouvelle génération se sert de ça beaucoup mieux que moi. Et donc une de mes filles, à qui j'avais confié une vingtaine de lettres, on en confiait comme ça un peu à chacun. Et à un moment donné, me dit « Papa, j'en ai marre parce que oncle Gérard fait un peu trop la leçon à grand-père et à oncle Jean, c'est-à-dire à ses deux frères. » Et ça m'énerve un peu, quoi. Et cette réaction de cette jeune fille de 20 ans, elle est assez significative parce qu'en effet, Don Gérard, vis-à-vis de ses frères, dès qu'il est entré dans sa vie monastique, il veut tout leur donner, mais avec l'impulsivité et le côté un peu, je sais pas moi, rapide et un peu brut de fonderie qu'il a comme ça au début de sa vie, je pense. Et il est un peu insistant et il veut un peu diriger la vie spirituelle de ses frères.
Et qu'il le veuille ou non.
Oui, il le fait avec une grande liberté parce que le lien entre les deux frères est très fort. Donc, ce sont quand même deux frères qui se sont retrouvés autour de leur mère, très unis. Et cette union des trois frères autour de leur mère fait qu'ils peuvent se dire tout. On se dit tout. Voilà, on se dit tout dans la tendresse, dans la charité, dans la joie, et on partage les peines, mais on est très liés. Et
cette espèce de lien. Mais dans une lettre, quand même, il y a, pardon d'interrompre, mais dans une lettre, il se plaint de ce que, je ne sais plus si c'est Jean ou Hubert, ne lui ouvre pas son âme. Ça, oui. C'est dans un moment précoce, avant son entrée. Oui. C'est, on sent qu'il.
Oui, bien sûr. Mais oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça que ces lettres sont fortes, c'est qu'il y a beaucoup de choses dedans. Ils disent des choses importantes. Parce que je pense que Don Gérard a vraiment envie que ses deux frères soient embringués dans cette aventure, presque, dans sa vocation. Voilà. Et ce lien, on le retrouve jusqu'à la dernière lettre, 15 jours avant sa mort. Il y a une lettre qu'il envoie à ses deux frères, 15 jours avant, et qui est très émouvante. On sent d'ailleurs qu'il pressent son départ. Et voilà.
Une lettre commune, donc.
Aux deux, il envoie, je crois, une copie à chacun. Et il dit, mes chers frères, chers Jean, cher Hubert, voilà, on a traversé cette vie ensemble. Voilà, elle est très belle, cette lettre. C'est la dernière que j'ai pu mettre dans le livre. Elle est écrite 15 jours avant sa mort. Et c'est vrai qu'on sent cette espèce de ciment inébranlable qui n'a jamais été entamé. Et c'est pour ça qu'il y a cette liberté de ton.
Et à un moment donné, il semble même, avant d'entrer lui-même au monastère, on sent qu'il aimerait y entraîner ses frères, presque.
Oui, et puis il faut savoir que mon oncle Jean a eu des doutes sur sa propre vocation. D'ailleurs, c'est pas un secret de Polichinelle, puisqu'il en parle dans une des lettres. Et véritablement, mon oncle... Donc voilà, ils sont très proches. Et puis, ils sont quand même les trois des élèves de Charlier. Donc, ils reçoivent la même nourriture. Ils reçoivent les mêmes choses. Ils vont ensemble aux mêmes retraites dans le petit monastère de Madiran. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Don Gérard va entrer dans le monastère bénédictin de Madiran, mais comme par hasard, ce monastère bénédictin de Madiran était à une quarantaine de kilomètres de Maslac, et André Charlier, pour former spirituellement ses élèves, les emmenait faire des retraites là-bas. Donc, voilà, tout ça, le travail du maître d'école, là, il est formidable, hein, il est essentiel.
Et alors, vous avez expliqué cela à votre fille ?
Oui, bien sûr. Non, mais les enfants, ils voient ça de leur avec leur âge, la distance et tout. Et c'est voilà. Et comme j'ai une fille qui a un caractère aussi un peu trempé comme ça, elle a trouvé que voilà.
Je crois qu'il faut dire aux auditeurs de Radio Courtoisie que Jean Madiran a choisi son nom de plume à cause de ce monastère Madiran où était entré Gérard Calvet. Et pour l'anecdote, Madiran se plaignait de ce que des gens lui disent. Ah, mais vous vous rendez compte, vous avez un nom de vin. Je vous ai apporté une bouteille de Madiran qu'il détestait cordialement. Il disait, j'aurais quand même dû m'appeler Pétrus.
Alors, ce qu'il faut aussi dire à propos de Maslac, parce qu'on ne peut pas ne pas le dire, c'est que, c'est pour ça que cette génération a été très gâtée, c'est qu'André Charlier a fait venir beaucoup de gens de très haut niveau. Il faisait venir Thibon. Et il faisait venir des moines de plusieurs monastères. Il faisait intervenir beaucoup de monde dans son école pour donner une nourriture autant intellectuelle que spirituelle à ses élèves. Il faisait venir Poulenc. Son frère Henri qui venait donner des cours de dessin, etc. Donc, cette jeunesse, cette génération a été très gâtée, quoi. Ils ont reçu une manne extraordinaire. Donc, certains en ont profité, certains ont beaucoup reçu et ensuite ont transmis, et puis d'autres moins. Mais c'est quand même un moment de grâce, quoi. Voilà.
C'est bien
ce que ressent Madiran. Mmh. Voilà.
Alors, il y a donc toute cette partie spirituelle, mais Don Gérard est aussi très attaché à ce qui est la vie de son pays. Alors, on peut évidemment parler de chrétienté, il en a parlé abondamment, mais chrétienté avec une vision de la politique au quotidien qui est assez précise. Enfin, il n'ignore pas ce qui agite notre société, nos concitoyens, les problèmes législatifs ou autres qui se passent. Et tout ça reste... C'est pas un autre Don Gérard. C'est vraiment une même idée. Vision. La famille, la France, mais tout ça est dans une même perspective.
Absolument. Alors, je vais vous répondre sur l'origine de ça. C'est que Don Gérard a toujours été très engagé politiquement. Contrairement à ses deux frères, qui étaient un peu plus en retrait, je dirais. Bon, mon père, c'était normal, il avait la poliomyélite, donc il a vécu une enfance d'enfants malades.
Donc oui, plus retiré.
Plus retiré. Il a une vie plus compliquée. Mais Don Gérard, on le voyait partir deux, trois jours, on ne savait pas où il était. Il allait castagner. Il partait avec les ligues royalistes. Il allait castagner du communiste dans le coin. Enfin bon, il revenait dans un état épouvantable. Ce qui mettait d'ailleurs son père dans un état épouvantable aussi. Mais donc les relations étaient compliquées. Mais Don Gérard aimait la castagne. Donc les questions politiques, les questions, les grandes questions qui agitaient le siècle, la guerre, etc., étaient des questions qui bouillonnaient dans la tête de mon oncle. Ça, c'est sûr. Et pour illustrer aussi ce que vous dites, Olivier, je voudrais lire ce petit passage d'une lettre qu'il écrit à son frère Jean en 1962. Donc, il est dans son monastère depuis plus d'une douzaine d'années. Voilà ce qu'il dit. Et tout ça, évidemment, est dans le recueil. « Il peut paraître étrange que ce soit moi, le fou de Dieu, le transfuge parti au-devant du royaume, qui vient, ayant perdu tous ses droits aux biens de la terre, qui soit le plus sensible aux réalités charnelles de la famille, de la terre, de la race. Mais c'est parce que le surnaturel est lui-même charnel et l'arbre de la grâce est raciné profond. Il faut faire confiance aux sentiments fonciers, le sens de l'honneur, l'amour du sol natal, la fidélité aux legs du passé. » Donc là, ce petit morceau-là montre bien que tout ce que va faire Don Gérard, le grand sermon de Chartres en 85, etc., demain la chrétienté, tout ça est déjà en lui depuis très longtemps, depuis 62, c'est-à-dire, vous voyez, dans les années 60, il a 30 ans, quoi. Voilà, donc tout ça vient de loin. Voilà, c'est vraiment c'est vraiment la spécificité de son caractère et de sa personnalité. C'est une évidence.
Et alors, sont-ce des choses qui, par exemple, vous, Paulin, quand vous rendiez visite à votre oncle, dont il vous parlait, ou ça restait plus spirituel, si je puis dire.
Quand moi j'arrivais à Bédouin, j'avais 10, 11, 12 ans.
Oui, 10, 11, 12 ans.
Et là, j'entrais dans les premières années de Bédouin. Moi, j'ai des souvenirs extraordinaires où j'étais un petit garçon en culotte courte et j'assistais à des moments de conversation extraordinaires entre mon père, mon oncle, Don Gérard, Madiran, Thibon, etc., tous ces gens-là qui se retrouvaient, Gérard Prieur, enfin tous ces gens-là qui se retrouvaient autour du feu de la cheminée qui était en fin de compte le parloir et l'entrée du petit prieuré de Bédouin. Et là, j'assistais à des conversations sans fin entre tous. Et c'est vrai que là, on sentait que le feu couvait et on ne parlait pas que de religion, on parlait aussi... On parlait aussi politique, on parlait géopolitique, on parlait de tout ce qui se passait dans le monde. Oui, ça a été... C'est une des spécificités de mon oncle. Il s'est beaucoup intéressé. Il avait une passion de la France. Il avait une passion de la France. Vous connaissez... D'abord, il a été marqué par Peggy. Peggy l'a énormément marqué, ça vient de Charlier. Peggy, c'est sûrement un des auteurs qui a le plus imprégné mon oncle. Et donc, les poèmes d'Ève, il les récitait régulièrement, enfin devant nous, comme ça, de temps en temps. À un moment donné, il s'arrêtait, puis il vous sortait quelques quatrains d'Ève, avec une facilité déconcertante. C'est sa nourriture.
Et c'est une chose qu'il transmettait seulement à ses frères, ou est-ce que vous étiez aussi des cibles de sa tendresse?
Après, c'était à nous à venir faire des retraites à Bédouin, ensuite au Barou. Donc ceux qui ont voulu approcher mon oncle, eh bien, ils ont pris leur pactage et ils sont partis, comme on l'a tous fait, plus ou moins, au monastère. Parce que mon oncle, il était quand même dans son monastère, il n'était pas ailleurs. Bon, après, ils voyageaient pour faire des conférences, mais... Donc, certains ont été attirés, certains y ont été, à différentes périodes de leur vie. Voilà. Mais chacun a sa liberté, et voilà. Et puis aussi, ce qu'on peut aussi dire, c'est que... pour certains d'entre nous, le déclic s'est souvent fait plus tard et même après sa mort. C'est-à-dire, voilà, les choses ne sont pas si simples. Mais il y en a pour qui le déclic s'est fait tout de suite. Et voilà, moi, je me suis retrouvé jeune étudiant dans les jeunesses d'Amitié française à Paris, où je courais à toutes ces grandes journées d'Amitié française qui étaient organisées par Bernard Anthony, etc., à la mutualité et tout. Mon oncle était invité pour parler, etc. Donc moi, j'étais complètement fan de tout ça. J'ai participé au premier pèlerinage. J'étais jeune étudiant. Je vibrais à tout ça. Mais après, dans ma famille, il y en a qui ont plus ou moins vibré, mais chacun vibre comme il veut. Et puis surtout à son rythme. Voilà,
bien sûr.
Voilà.
Et alors, moi, il me souvient que à Bédouin, pas trop, parce que mais j'étais vraiment petit,
oui.
gamin, mais au Barou, même si Don Gérard sortait peu, enfin, peut-être trop à son goût, mais peu en réalité, il venait quand même certains personnages à l'abbaye. Donc, il y avait une continuité, si je puis dire, de cet esprit de chrétienté, mais dans l'aspect plus politique. Enfin, il y avait un mouvement autour.
Il y a une chose qui est très importante, c'est que, et ça, mon oncle nous l'a souvent dit, il voulait absolument faire en sorte que ces moines comprennent ce qui se passait dans le monde. Ils n'étaient pas du monde, ils avaient leur vocation, ils ont leur vocation bénédictine très spécifique, avec une clôture, une vie communautaire très encadrée, très minutée, on est d'accord là-dessus, mais mon oncle ne voulait pas qu'ils soient totalement absents de tout ce qui pouvait se passer autour d'eux, et c'est pour ça qu'il voulait qu'il y ait des intervenants, souvent, qui ne soient pas exactement formatés, qui ne soient pas exactement dans le format religieux du prérequis. Vous voyez ce que je voulais dire?
Oui, voilà. Tout à fait.
C'est pour ça qu'il a laissé entrer dans le monastère des gens qui n'étaient pas exactement pile-poil raccord avec tous les choix liturgiques ou religieux de mon oncle. Il voulait qu'il y ait cette espèce de souffle de liberté qui permette aux moines de pouvoir exercer leur jugement et réfléchir par eux-mêmes aussi sur des grands sujets, etc. Thibon est un inclassable aussi, le lien extraordinaire qu'il y a eu entre les communautés du Barou et Thibon est formidable. D'ailleurs, j'en ai mis un petit morceau dans un petit texte à la fin du livre pour montrer cette espèce de lien. Et Thibon était un homme qui apportait une espèce de souffle de liberté dans le monastère. Il parlait avec sa faconde, etc., mais son aisance de philosophe, mais aussi avec cette capacité de dépasser les clivages. Mon oncle me disait toujours, il faut lutter contre un esprit de chapelle, il faut lutter contre un esprit de résistance, il faut résister, mais sans être dans un esprit de résistance permanent, parce qu'il faut savoir être capable, quand on est fort, d'être sur la crête, mais d'accueillir tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon est bon. Et va vers le vrai, mais on peut le trouver dans des lieux qui ne sont pas toujours à nos portes. Voilà. Et c'est ça qui était intéressant chez lui. Et c'est pour ça qu'il a attiré beaucoup de gens qui n'avaient pas la foi. C'est qu'ils n'étaient pas enfermés dans un carcan. Il avait cette espèce de liberté qui lui permettait de s'adresser à des gens qui n'avaient absolument pas la foi, qui étaient athées, qui étaient complètement matérialistes ou bouddhistes ou je ne sais quoi. Enfin, il avait cette liberté de pouvoir parler de tout avec tout le monde. Voilà. Et ça, c'est ce qui lui a permis d'avoir cette aura et cette espèce de paroisse invisible qui avec laquelle il a communiqué pendant toute sa vie. C'est pour ça que les moines disaient toujours, quand on passait devant en pleine nuit, devant la porte du père abbé, on voyait bien, ou même du père prieur, parce qu'il était prieur avant d'être père abbé, on voyait la lumière tard dans la nuit, parce qu'il a passé sa vie à écrire à des gens pour leur apporter un soutien spirituel, moral, pour sauver des familles, pour sauver des couples, pour sauver des âmes. Voilà.
Mais on le voit dans une des lettres, il dit je vous écris rapidement à 3 heures du matin, mais je ne voudrais pas être en retard pour te souhaiter, je crois que c'est un de ses frères, ton anniversaire. Voilà. Matine, c'est dans 3 heures.
Ouais.
Alors effectivement, on se dit qu'il ne devait pas beaucoup dormir, Don Gérard.
Voilà, c'est vrai.
Oui, il y a, un lien, plus qu'un lien, entre la terre charnelle, pour reprendre Peggy, et la spiritualité bénédictine. Il y a oui, une continuité presque.
C'est une religion incarnée.
Voilà.
Et il a quand même... C'est vrai que ce livre, Demain la chrétienté, il faut le lire et le relire. Il est extraordinaire parce qu'il est d'une actualité folle. Il montre bien que voilà, l'Église sans la chrétienté, c'est comme le corps sans l'âme. Enfin, je ne sais pas. D'ailleurs, à ce sujet, si vous voulez, je peux vous lire un tout petit texte de lui qui est très court, mais qui résume très très bien le sujet. Don Gérard qui parle. Une chrétienté peut mourir, mais l'Église ne meurt pas. Et cependant, l'Église a besoin de la chrétienté comme l'âme a besoin du corps. L'Église a besoin de la chrétienté comme un champ fertile. La chrétienté a besoin de l'Église comme une lumière. L'Église donne à la chrétienté le trésor des communications divines, le goût de l'éternité et le détachement du temps. La chrétienté communique à l'Église son alliance avec la terre, ses vertus humaines et son inscription dans l'histoire. Voilà. D'abord, c'est une très belle langue, très poétique, très concrète, très charnelle, très, 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 très forte. Et il résume tout. Il résume cette espèce d'équilibre extraordinaire.
Un équilibre qu'on retrouve, Paulin Calvé, dans l'amour de Don Gérard, qu'on découvre dans ses lettres à ses frères. Amour du théâtre, amour de la littérature, amour des arts, et ce goût qui lui est très personnel, qui a fait que le Barou je trouve plus le mot en français, ce qu'on a sur les doigts. Enfin, peu importe, une horrible verrue dans le paysage de Provence. C'est une abbaye qui incarne la Provence.
C'est vrai.
Il a redonné vie à un art qu'il a appris avec André Charlier, avec Henri Charlier. Il a des mots sur la Pietà de Michel-Ange qui sont très rigolos. C'est tout un ensemble pour lui. L'aspect artistique, humain, est d'une importance primordiale, on a l'impression.
Absolument, on ne peut pas parler de Don Gérard sans parler de sa dimension artistique. Il y a la dimension poétique, c'est une évidence. D'ailleurs, juste pour le mot, sur la poésie, il y a quand même un tout petit quatrain qu'il envoie à son frère. Il est jeune novice. Hein. Je veux quand même vous le lire parce que c'est une petite perle. Au moment de l'Annonciation, il envoie une petite lettre à sa mère et à son frère et pour demander des caleçons, des pyjamas. Enfin bon, on lui demande, parce que le père Lingé lui dit, il vous manque ça, ça, ça et ça, demandez à votre famille de vous fournir. Donc il dit ça, il dit, j'ai besoin d'être remonté en... trois chaussettes, trois, enfin bon. Et puis à la fin, il dit, bon, ben, on va quand même parler de choses importantes. Donc il écrit un petit quatrain, comme ça, clac, sur l'Annonciation. C'était un ange. Elle était seule, au ménage tout occupé. Ce fut comme à l'accoutumée. Il se tenait près de la meule. Bon, hop, il envoie ça à son frère, il ferme l'enveloppe, c'est parti. Bon, c'est un poète, il a cette capacité d'écrire ces quatre vers, c'est déconcertant. Voilà. Donc il y a ça. Et puis l'artiste, c'est-à-dire qu'il aimait la peinture, il aimait le dessin. D'ailleurs, il a pas mal dessiné au Brésil, parce que là, on lui a demandé. Il a vraiment développé son art du dessin parce qu'il a été formé par Henri Charlier qui venait et par Albert Gérard qui était aussi à Maslac, qu'on retrouve après à l'atelier de la Sainte-Espérance. Enfin, tout ça, vous connaissez. Donc Albert Gérard faisait partie de tout ça. Il a été formé par Henri Charlier. Et là, c'est vrai que Don Gérard a reçu énormément. Et comme il avait ce don du dessin, et il a même été professeur de dessin après quand il passe son bac, qu'il loupe d'ailleurs, André Charlier voit que Don Gérard n'est pas en mesure de partir, faire du droit, faire une école. Il flotte un peu là. Et là, André Charlier lui dit, viens, reviens à l'école, tu vas m'aider. Tu vas gérer les petits, tu vas gérer des choses dans l'école, tu seras à mes côtés pour... Voilà. Donc il va rester 2 ans avant de partir faire son service militaire. C'est pour ça qu'il reste après son bac. Et c'est pendant ces deux ans, il va faire beaucoup de dessins et il va donner des cours de dessin. Voilà, donc vraiment le dessin, donc l'architecture, tout ça, c'est sa vie. Et quand il va construire le barreau, ben, voilà,
il incarne ce qu'il a en lui.
Ah oui, et là, les moines en sont témoins d'ailleurs. Mmh. Les moines nous ont toujours dit qu'il avait, un œil très sûr, quoi. Mmh.
Pour nos plus jeunes auditeurs, le bac que dont Gérard passe quoi dans les années à la fin des années 40
45, 6,
oui, ça n'est pas le bac d'aujourd'hui.
Non.
C'est autre chose. Ne
désespérons pas nos jeunes auditeurs, s'il vous plaît.
Vous écoutez Lumière de l'Espérance, l'émission du dimanche de Radio Courtoisie, dirigée aujourd'hui par Olivier Figueras, qui reçoit Paulin Calvet, grâce à qui existe un recueil de lettres de Don Gérard à sa famille, Le souvenir et l'âme de la fidélité, correspondance de 1944 à 2008, aux éditions Sainte-Madeleine.
Alors on va peut-être écouter encore quelques petits mots de Don Gérard et puis nous continuons.
Et puis il faut comprendre aussi que pendant les heures nocturnes, il y a cette marée de luxure qui s'étend sur le monde. Le moine intercède alors pour ses frères. Pensons aux grands malades dans les hôpitaux, aux chrétiens derrière le rideau de fer. Est-ce que les moines ne doivent pas veiller pour cela, comme des sentinelles invisibles? Oui, nous aimons l'office de nuit, c'est une très grande tradition. D'ailleurs, la liturgie elle-même nous y porte. Les hymnes de l'office de nuit contiennent de très belles idées. C'est en particulier que Dieu est le Seigneur de l'univers cosmique. Et par conséquent, toutes les créatures doivent chanter ses louanges. La nuit ne doit pas se dérober à cet office. Par exemple, dans l'office des Mathilde du mardi, vous avez une strophe qui exprime cela très bien. Elle dit « Noctem canendo rompimus »« Nous rompons la nuit de nos chants ». La nuit, pour les anciens, c'était l'image du chaos. Alors, au milieu de la nuit, les Mathilde sont comme une sorte d'explosion de louange. Cela signifie le mystère pascal, la victoire de Pâques sur la nuit, sur les ténèbres de la nuit. Et puis il y a une idée très biblique que nous aimons aussi beaucoup, c'est que le Seigneur doit être loué sur terre comme dans l'éternité, c'est-à-dire sans interruption. Alors le temps imite, pour ainsi dire, l'éternité, comme les moines imitent la vie des anges dans le ciel. À Cluny, par exemple, les moines avaient inventé ce qu'on a appelé la laus perennis, la louange perpétuelle. C'est-à-dire que les moines se relayaient dans le cœur de l'église abbatiale et cette église était remplie de chants jour et nuit, sans interruption.
Voilà, alors que ce soit une fois de plus par le verbe ou par la plume, on peut dire que Don Gérard avait un certain sens du verbe, justement. C'est, je crois, d'ailleurs, une des choses qui a attiré mon père chez lui. Mon père, qui, quand il a connu Don Gérard, n'avait pas la foi. C'était l'amour de la patrie, puis le sens du verbe, ça y faisait beaucoup, quand même. Et ce côté de poésie qui... finalement, il avait... une telle facilité en poésie que c'était normal d'écrire en poésie. C'est un peu comme le jeune Hugo qui se fait reprendre un jour par un de ses professeurs quand il est à l'école parce qu'il a fait une rédaction tout en vers. Et alors on lui dit Victor ou Monsieur Hugo, je ne sais pas comment on disait exactement à l'époque. On avait dit une rédaction et il lui répond « Maître, excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de faire de la prose. » C'est un peu le même genre. Paulin, il y avait une question que je voulais vous poser plus personnelle à vous. J'allais dire, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez découvert en concoctant ce recueil de correspondances avec... Qu'est-ce que ça a fait surgir quelque chose en vous que vous ne saviez pas ou...
J'ai découvert beaucoup de choses. En fin de compte, j'ai redécouvert mon oncle. Je croyais le connaître, je croyais l'ayant beaucoup vu, beaucoup entendu, et lu, parce que je pense avoir lu pratiquement tout ce qu'il avait pu écrire. Je le découvre parce que là, il... comment dire il est en liberté. Quand on écrit à ses frères en pleine confiance, quand on écrit à sa mère, quand on écrit comme ça, dans l'intimité familiale, on se découvre encore plus. Et là, il y a vraiment, des choses que je... D'abord, dans sa spiritualité, il y a une chose que j'ai bien compris, c'est que c'est d'abord un homme d'adhésion avant un homme d'analyse. C'est-à-dire, on sent chez lui cet homme de désir. Et en fin de compte, très souvent, j'avais lu dans ses textes cette notion du désir. Et c'est à travers les lettres que j'ai compris ce qu'il voulait dire. Voilà. C'est en fin de compte cette espèce de... c'est d'abord le cœur de l'homme qui s'ouvre pour la grâce. Et en fin de compte, ce qu'il y a de formidable chez mon oncle, c'est que ce n'est pas une religion d'intellectuel. C'est pour ça que c'est une religion totalement accessible. C'est un catholicisme, c'est une spiritualité extrêmement accessible pour tous. C'est pour ça qu'il a eu du rayonnement, d'ailleurs. S'il a eu tellement de rayonnement, ça vient de là. C'est qu'il est accessible parce qu'il nous rend la vie spirituelle, la vie religieuse, la vie, ce cœur à cœur que nous devons avoir avec Dieu, avec Jésus, avec le Christ, il nous le rend, il fait tomber des barrières, il la rend simple. Voilà. Parce qu'il, d'abord, il parle avec une âme de poète, donc il a cette espèce de sens du concret qui apparaît tout de suite. Et donc, il rend les autres plus libres d'entrer dans ce monde-là, qui peut faire peur, qui peut inquiéter.
Et voilà. Quel que soit leur mode, leur situation dans la vie, d'ailleurs, et c'est ce qu'on trouve dans ce livre.
Exactement. Il y a une espèce, d'abord cette espèce de capacité d'être en empathie permanente avec les autres. Donc ça, je l'ai vu parce que je l'ai vu parler à des êtres complètement fermés à tout, et lui, il arrivait à ouvrir des portes que personne n'ouvrait. Bon, ça, ça vient de sa mère, hein, d'ailleurs. C'est sa mère qui avait c'est mon père qui me l'a toujours dit. Sa mère avait cette capacité d'entrer dans le cœur des autres, et c'est vrai que Don Gérard avait ce don. Donc ça, il l'a reçu de sa mère. Mais voilà, donc ce que j'ai vraiment compris dans ce livre, c'est ça. C'est cette espèce de comment dire, personne n'est parfait. Don Gérard avait une impulsivité, une intuition, qu'il ne faisait confiance qu'à son intuition. Quelquefois, ça a pu lui jouer des petits tours. Ça, c'est des choses qui arrivent. Mais c'était surtout un homme d'adhésion. Voilà. Donc, ce n'était peut-être pas le plus grand théologien de la planète. C'est peut-être ce qu'on peut dire, mais c'est d'abord, avant tout, un moine poète et mystique, très fort, et je pense qu'il peut nous aider à entrer dans notre vie spirituelle facilement, parce qu'il nous donne des outils simples. Voilà, il nous dit des outils simples.
Une espèce de petite voix.
Oui, mais c'est pour ça que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est très importante pour lui, il en parle très souvent, et sa vie mariale est très simple. Voilà, sa vie mariale est très simple, elle est... Et c'est pour ça que là, pour moi, ce livre m'a fait énormément de bien. Enfin, moi, je veux dire, j'en suis le premier bénéficiaire. Quand j'ai lu toutes ces lettres, j'en pleurais d'ailleurs. J'ai passé 2 ans à pleurer d'émotion devant ces lettres parce que j'avais vraiment l'impression que je découvrais un homme que je croyais connaître. Et en fin de compte, j'ai ouvert des pages énormes.
Voilà. On le savait déjà, mais on le voit amoureux de Dieu, en fait. Et ça, c'est ça qu'il communique.
Exactement.
De manière non jalouse.
Oui, oui. C'est une espèce de douceur. Hein. Une espèce de douceur. Alors, c'est-à-dire qu'il y a en même temps un côté très intransigeant sur tout ce qui est en matière de foi, de doctrine, de morale. Là-dessus, il est recta. Mais la façon d'aborder les sujets avec les êtres, là, il y a cette espèce de sens de la miséricorde, de la douceur qui est très particulière chez lui. Et d'ailleurs, il faut le reconnaître, qu'il a aussi beaucoup transmis à ses moines.
Mais est-ce
car
qu'il
quand
l'a...
on voit la génération de moines qui est aujourd'hui dans les 3 et bientôt 4 monastères qui sont ses enfants, eh bien, on retrouve cette capacité d'entrer en communication avec les autres.
Mais est-ce que comme François de Sales, Il a dû travailler là-dessus, parce que vous disiez que quand, lorsqu'il était à Maslach, il était un peu incontrôlable, il était impulsif. Percevez-vous une évolution dans sa manière d'être à travers ses lettres ?
Je pense que la... ce qui a aussi beaucoup façonné Don Gérard, c'est le Brésil. Je pense que la coupure du Brésil a été un moment dur. Je pense que ça a été une épreuve d'abord de l'éloignement et puis qu'il a vu toute la crise se développer parce qu'il part au Brésil en 64, je crois, donc c'est la fin du concile.
Et en Amérique premiers. Latine, là, et puis là, c'est vraiment là, très, là, très, là, très,
c'est très
présent.
Compliqué. Et puis ils ne sont que quatre dans le monastère de Curitiba. Et c'est vrai que là, il passe un moment en même temps extraordinaire parce qu'il est... Comme il a une âme de bâtisseur et qu'il y a tout à faire dans ce petit moutier de Curitiba, c'est évident qu'il va en faire beaucoup. Mais et puis il va vite apprendre le portugais, il va vite s'acclimater à cette langue, à ce pays extraordinaire. Donc ses lettres sont passionnantes sur le Brésil. D'ailleurs, il faut les lire pour ça. Mais là, quand même, déjà, là, on sent qu'il y a l'épreuve. Il y a l'épreuve qui arrive. D'ailleurs, il a une phrase très belle hein, que je ne peux pas ne pas vous donner, mais qui est magnifique. Tout homme après 40 ans est soumis à l'épreuve et je ne désire pas en être dispensé. Donc ça, c'est une petite phrase qu'il a dans une de ses lettres au moment où il part de Tournai, où il n'a pas encore trouvé Bédouin, dans une période difficile. Il vit une vie d'ermite avec le père de Floris en Haute-Provence. C'est pas évident, il sait pas où il va atterrir, c'est compliqué.
Et il part avec la bénédiction de son père abbé.
Il part avec la bénédiction de son père abbé, mais enfin il part seul, parce que pendant 25 ans de sa vie, il était dans une communauté, très encadré, et là, il est seul. Bon, il fait un petit tour à Fongombo, il fait un petit tour dans différentes abbayes pour voir où est-ce qu'il peut atterrir. Parce que déjà, il y a eu pas mal de moines qui étaient sortis de Tournai et dans d'autres monastères pour aller chercher autre chose au moment de toute cette période très, très compliquée, très, très tempétueuse pour l'Église, où il y a eu d'énormes crises pour beaucoup de moines qui n'ont pas accepté certaines réformes brutales dans certains monastères et qui ont cherché des monastères plus conservateurs. Donc beaucoup de moines étaient en grande difficulté. Donc Don Gérard fait partie de cela. Et puis il trouve Bédouin. Et à partir de là, voilà. Mais ce que je veux dire aussi, ça c'est très important, c'est que dans aucune de ces lettres, il y a la moindre trace de désespérance et d'inquiétude sur l'avenir. Il y a une foi en la providence qui est extraordinaire. Et ça se voit dans les lettres de cette période de 68-69, avant d'arriver à Bédouin en 70, en août 70, pendant ces 2 ans, il dit toujours « ce que j'ai honte d'être si heureux ». Alors qu'il est dans une situation extrêmement inconfortable. Moi, je me souviens, à l'âge de 10 ans, d'avoir servi sa messe dans cette espèce d'une... Ça ressemblait vaguement à une petite grange. Il y avait des parpaings qui faisaient office d'hôtel avec le parpaing, une planche. On y avait mis une belle nappe blanche et j'ai servi ça. Je me souviens encore d'ouvrir sa petite valise en carton où il y avait encore, je me souviens, il y avait encore les... Vous savez, autrefois, quand on voyageait, on vous mettait des tampons. Voilà. Alors, il y avait Brésil, il n'y avait pas tous les pays dans lesquels il était allé, évidemment, puisqu'il revenait du Brésil. Et donc, cette petite valise en carton, il y avait les burettes, etc. Et, enfin, il y avait tout le linge de messe, etc. Et je me souviens d'aller dans la petite valise pour servir sa messe. Donc, c'était dans un dénuement épouvantable. Hein. C'était vraiment... C'était ambiance Saint-François, là. Hein, j'exagère, mais je veux dire, ça n'avait rien d'une ambiance et d'une vie de communauté organisée. Hein.
Oui, c'était voilà. Pas la riche abbaye bénédictine.
Ah, rien à voir, là. Hein. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que les lettres de cette époque-là montrent un optimisme et une foi inébranlable dans son étoile. Il se dit, Mais le bon Dieu pourvoira à ce dont j'ai besoin et ce que je dois faire.
Et ça dans un contexte de crise épouvantable dans l'Église.
Absolument.
Moi, je me souviens qu'il répétait cet aphorisme de Lacordaire, ce que je sais de la journée de demain, c'est que la Providence se lèvera avant le soleil. Et c'était très marquant parce que c'est... Bon, moi, effectivement, j'ai connu aussi Don Gérard, j'étais gay, tout minot. Et quand on grandit un peu, on commence à se poser des questions, etc. Et on avait l'impression que lui... Pas de questions, ça ira bien, alors, c'est bon.
Pour illustrer, pour donner quelques belles phrases de mon oncle Don Gérard à nos auditeurs, sur ce sujet de cette période difficile, puisqu'en fait, quand il vit 40 ans de vie cachée, et puis à partir de la quarantaine, il va rentrer dans une vie publique, au moment où il y a Bédouin, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est... Ces deux phrases qui, à mon avis, sont intéressantes. La première, tout ça c'est dans les lettres, évidemment, il dit juste un an avant Bédouin, « C'est parce que je reste de toutes mes forces fidèle au passé de ma jeunesse monastique que je partirai peut-être un jour tout seul pour reprendre l'œuvre abandonnée de nos fondateurs. » Voilà. Donc, dans sa tête, les choses sont claires. C'est un an ou deux avant Bédouin. Voilà. Donc, il dit ça. Et puis... En août 70, à propos de cette révolution, je dirais, qui embrase beaucoup de monastères, qui en souffrent, il y a quand même une déperdition, un départ de moines moniales et religieux dans le monde très important à cette période-là. C'est aujourd'hui, les chiffres sont accablants. Il dit cette phrase qui est quand même un résumé de la situation, il dit... Le fond du problème, c'est quand on est en révolution, et en révolution, on ne fait pas de réforme, on tient les positions.
Voilà. Oui.
Voilà. Cette idée que finalement, on est en révolution, pendant cette période-là, il faut tenir. Il faut tenir, on n'est pas là pour faire des expérimentations diverses et variées. Voilà. Et en fait, elle est là, la clé de sa position. Voilà. Et là, c'est là où je dis... Depuis le début, c'est pas un homme d'innovation, c'est un homme de restauration.
Deviens ce que tu es, disait Marcel de Corte.
Voilà donc cette période très 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 impressionnante de ces deux ans de où il est pas fixé quoi, il est pas posé là où il faut et il va laisser la Providence agir pour lui.
Mais quand il arrive à Bédouin, il est pas encore tout à fait fixé, parce qu'il arrive seul,
oui.
Et même si très vite il n'est plus seul, au départ, il ne s'attend pas à fonder totalement. Il l'espère sans doute, mais ce n'est pas aussi évident. Enfin, il n'a rien pour organiser ça.
Oui, c'est une ferme, c'est une petite ferme attaché à ce petit prieuré, à cette petite église du 12e, magnifique. Tout ça est petit, tout ça est minuscule, rien n'est fait. Il n'y a pas de cellule de construite, il n'y a rien. Il y a une ou deux chambres, une vague cuisine, un vague salon, enfin une vague entrée avec une cheminée. C'est le délabrement total. Et puis petit à petit, il va tout construire. Il va se faire beaucoup aider d'ailleurs par les légionnaires. Parce qu'il va devenir l'aumônier des légionnaires de je crois que c'est Orange. Et il a cette phrase, parce qu'il a toujours le sens de la formule. Il dit vous êtes les moines de l'Église et moi nous sommes les légionnaires de vous êtes les moines de l'armée et nous sommes les légionnaires de l'Église. Voilà. Bon, et parce qu'en fin de compte, il y avait aucun prêtre dans la région qui acceptait d'être l'aumônier des légionnaires. C'était pas trop à la mode à l'époque.
Oui, l'époque n'était pas...
Les prêtres refusaient. Et puis un jour, on a dit au commandant de la Légion d'Orange, on lui a dit, mais vous savez, il y a un moine là-bas qui pourrait peut-être faire le job. Et quand on lui a proposé, Don Gérard a dit tout de suite, et il est resté... Il a assisté à toutes les fêtes de Cameroun. Enfin, j'y étais aussi. Il était là, heureux. D'ailleurs, il faut reconnaître que les militaires à Bédouin et au Barou... avaient un peu leur ronde serviette régulièrement. Entre le colonel de Blinière, Élie de Saint-Marc, enfin, il y a eu beaucoup de monde. Le colonel Argou, etc. C'est vrai qu'il aimait bien. Il faut reconnaître que il faut pas oublier que Don Gérard est quand même un petit-fils de militaire. Il y a une, il y a toute une génération, plusieurs générations de militaires derrière lui par sa mère.
Et puis il y avait peut-être donc une certaine similitude entre leur aventure et la sienne.
Complètement. Voilà. Complètement, absolument. Absolument. Non, non. Puis voilà, il aime ça. Puis vous connaissez cette phrase de Peggy que Don Gérard ressort tout le temps. J'ai pas beaucoup de mémoire, donc il faut que je la retrouve, mais celui qui défend une place assiégée est toujours un petit cousin de Jeanne d'Arc. Là, donc on est vraiment dans. Voilà, là, on est dans le cœur de la. De ce qu'aimait mon oncle. Voilà. Oui. Voilà. Donc, cette idée de. Voilà. On est sur la crête.
Voilà. Dans le cœur et sur la crête, tout à la fois. C'est un équilibre.
Oui.
Tout à fait, Don Gérardien.
C'est vrai. Et un outil, et un grand souci d'unité. C'est pour ça qu'il a, jusqu'à la fin de ses jours, prié son chapelet pour l'unité de la grande famille de la tradition, dont Louis-Marie et Don Marc me le redisaient encore il y a quelques jours. Don Marc, qui est le père abbé de Sainte-Marie de la Garde, me disait, mais jusqu'à la fin de ses jours... il priait sans cesse et il disait son chapelet aux intentions du retour de la régularisation de la fraternité Saint-Pédis. Pour lui, c'était une cicatrice qu'il fallait. C'était un grand sujet pour lui.
Et d'ailleurs, le rosaire, le chapelet est présent dans ses premières lettres. Il part en service militaire au Maroc, et il envoie des lettres, et il dit qu'il trouve des petits moments dans la journée pour dire quand même une dizaine par-ci, par-là, et il parle de la puissance du rosaire face à ces événements, et je dirais peut-être que sa plus grande leçon, pour aujourd'hui en tout cas, c'est cette confiance en la Providence pour sauver ce qui doit être sauvé, faire ce qu'il faut faire à sa place, et puis avoir assez de foi et d'espérance pour croire que tout ira bien.
Parce qu'il faut faire à sa place, c'est souvent difficile. On est toujours très doué pour savoir ce que les autres devraient faire à leur place.
Mais c'est vrai.
Peu faire ce qu'on doit faire soi. Oui.
Et il écrit aussi à un moment donné que... Alors, je n'ai pas la citation exacte. Ce sont les moines font plus en priant pour ce qui nous arrive au jour le jour que n'importe quel homme politique.
Et oui, parce que, alors ça aussi, merci de dire ça, Jeanne, parce que ça veut dire quoi? D'ailleurs, on retrouve tout à fait ça dans les extraits que nous avons entendus tout à l'heure. C'est que, pour Don Gérard, notre religion est avant tout une religion contemplative. Voilà. Et ça, c'est aussi une des parts très importantes de son message, c'est que nous devons d'abord commencer par la contemplation. Nous sommes des contemplatifs. Alors, il y a tout le reste qui vient avec, il y a les œuvres, il y a tout, mais voilà, nous sommes là d'abord pour louer Dieu, et c'est la contemplation, c'est la prière, c'est le cœur de sa mystique, hein. C'est le cœur de ce que l'on retrouve aussi beaucoup dans ce recueil, c'est vrai. Nous sommes une église qui ne serait plus une contemplative ne serait plus l'église. Enfin, il a des phrases très fortes là-dessus, très 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 dures. Oui, c'est très important.
Alors, il nous reste 3 minutes. Jeanne, est-ce que vous pouvez donner les références du livre pour les gens qui seraient intéressés? Enfin, seraient, ça me paraît très choquant que personne ne le soit.
Les gens seront intéressés s'ils lisent ce livre. Le souvenir est l'âme de la fidélité, tel en est le titre, correspondance de 1944 à 2008, Brigitte Calvet, André Charlier, Jean Calvet, Don Gérard, Hubert Calvet, donc Don Gérard, fondateur du Barou, et ses frères, et son maître et professeur André Charlier. Brigitte Calvet, nous n'en avons pas parlé, mais ce livre, vous pouvez le trouver très facilement dans les librairies, vous pouvez le demander, vous pouvez aussi le commander sur barou.org ou encore chez livreenfamille.fr. Et vraiment, c'est d'une lecture extrêmement agréable grâce à la langue de Don Gérard en particulier.
Alors, il nous reste 2 minutes. Il faut conclure, Paulin, même si on pourrait dire encore bien des choses, malheureusement, le temps nous est compté. Il faut conclure. Pourquoi le souvenir est-il l'âme de la fidélité ? Le titre est...
Alors, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, évidemment. Une petite phrase que je trouve dans ce texte qu'il écrit à sa mère. Et il est dans ce texte-là. Et il reprend, donc c'est une phrase qu'il a souvent utilisée dans sa vie. Il écrit ça aussi dans un de ses sermons pour le repos de l'âme d'André Charlier. Car dans les annexes de ce recueil, il y a un sermon de Don Gérard pour le repos de l'âme d'André Charlier qui est absolument magnifique. Et puis il y a ce recueil, ces 11 pages sur sa mère qui sont très belles aussi. Et il emploie ce terme que je trouve très parlant. Il est le souvenir et l'âme de la fidélité, parce que d'abord l'œuvre de Don Gérard, c'est une œuvre de fidélité, voilà, et que nous devons nous souvenir de ce qui a été fait, de ce qui a été réalisé, parce que nous en sommes les bénéficiaires, nous en sommes les héritiers, et qu'on doit continuer, et que aujourd'hui, si la tradition continue et perdure, il y a aussi ces hommes-là qui se sont battus à leur temps, à leur moment, pour faire perdurer certaines choses.
Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci, chers amis auditeurs, de nous avoir écoutés ou de nous écouter plus tard, suivant votre programme à vous. Merci, Jeanne, de m'avoir accompagné. Merci, Paulin, on aurait pu continuer très très longtemps. Merci, Jocelyn, pour la réalisation de cette émission, et merci à Don Gérard.
Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Olivier Figueras, assisté de Jeanne Smith, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, dimanche 7 juin 2026, de midi à 13h30, et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.